Loft Music Sud Radio 20h-21h, Yvan Cugius.
La mer est un espace de rigueur et de liberté. Victor Hugo. Merci d'être avec nous ce soir dans le Loft Music. Ravi de vous retrouver pour cette soirée qui démarre en musique. Tous les soirs, vous le savez, à 20h, c'est le Loft. On échange autour de la musique, de cette passion commune, à nos invités. On vous fait découvrir des choses que vous connaissez peut-être pas. Et puis on invite aussi des gens qui sont très connus, que vous avez forcément entendus, croisés dans votre démarche de public avisé ce soir dans le Loft. Notamment la Grande Sophie. Bonsoir Sophie.
Bonsoir.
Merci d'être là. Le single La Mer, qui annonce un nouvel album forcément, j'imagine, j'allais dire.
Oui, ce sera à l'automne.
Ce sera à l'automne. Ouais. Et ce single La Mer qui, voilà, vient concrétiser cette démarche qui la tienne aujourd'hui de retour à quelque chose d'assez simple, de, voilà, d'évident, j'allais dire. On remet un petit peu tout sur la table, on remet les pendules à zéro, c'est ça Sophie?
Oui, disons que... je repars sur une base très guitare acoustique, et c'est ces chansons que j'ai écrites pour cet album. Je sais pas pourquoi, j'ai eu besoin de... C'était comme si j'étais autour d'un feu de camp et que j'écrivais une à une ces chansons. Donc il y a cette image de feu de camp à chaque fois qui me revient. Ouais. Et puis évidemment, sur une plage, on peut faire un feu de camp. Et je trouvais que c'était bien, c'était une chanson de saison. J'avais envie de prendre la parole avec cette chanson-là.
Ouais. Ça te parle, cette phrase de Victor Hugo, « La mer est un espace de rigueur et de liberté ».
Au début, le mot « rigueur » m'a surpris. Et puis... quand on prend la mer, quand on est marin, matelot, on doit... Oui, la rigueur est importante, j'imagine. Moi, quand je vais à la mer, je pense pas à la rigueur, ouais. Mais je pense plutôt à la liberté et puis à l'horizon que ça provoque. C'est plein d'images, c'est aussi... C'est un endroit qui calme, ouais. qui est infini et... Et j'ai vécu au bord de la mer puisque j'ai passé mon enfance à côté de Marseille.
À côté de Marseille, bien sûr.
Oui, et puis j'ai de la famille du côté de l'océan. Donc chez nous, on était beaucoup plus mer que montagne. Et la mer, c'est un besoin en fait, c'est vital chez nous.
On va reparler de cette rencontre entre deux termes qui peuvent sembler un peu contradictoires, rigueur et liberté, mais qui certainement illustrent aussi ce qu'est la musique, la rigueur et la liberté. On va en parler. Je te présente, je ne sais pas si tu connais, Éric Berchaud qui est avec nous. Bonsoir Éric.
Bonsoir.
Merci d'être
Bonsoir.
Là.
Bonsoir.
Plaisir. On est ravis de t'accueillir, Éric. Charles Aznavour, Vue de dos, c'est publié au Cherche Midi et c'est signé, co-signé, c'est écrit à quatre mains, comme pourrait le dire le pianiste que tu l'es, avec Gérard Davoust, producteur, éditeur, en tout cas de Charles Aznavour, et toi-même, Éric Berchaud, pianiste, éminent, concertiste, lauréat de nombreux prix internationaux, dont le fameux prix Chopin,
oui.
Et qui a accompagné le grand Charles Aznavour pendant combien de temps, Éric?
Oh là là, moi j'ai commencé à accompagner Charles dans les années 80,
ouais.
Pour un grand échiquier, et puis après, d'une façon vraiment, vraiment continue et non-stop à partir du Palais des Congrès 2007.
C'est ça, on va en reparler évidemment avec toi, puisque tu consacres cet ouvrage préfacé par Michel Drucker et post-facé par Linda Lemay à Charles Aznavour, avec toutes ces anecdotes qui jalonnent cette rencontre et ce parcours que tu as fait à ses côtés.
Oui, tout à fait, parce que Charles, c'était une telle personnalité qu'on a... On a une multitude de souvenirs sur scène, derrière la scène, et puis comme j'ai eu la chance de le connaître très très jeune grâce à mes parents qui étaient, ouais, des amis d'enfance, donc il y a tout un passé.
Et Ted Lapidus aussi, j'ai vu. Hein,
absolument, un peu dans c'était un groupe de copains. Et moi je me suis retrouvé comme ça de nombreux, nombreux week-ends dès mon plus jeune âge chez Charles Aznavour. Oui.
On en parle ce soir dans le Loft. Écoutons tout de suite le single La Mer de la Grande Sophie qui est avec nous également ce soir.
Les cheveux dans le vent, les deux pieds dans le sol, on regarde l'océan, on regarde les vagues, la mer. Rien n'est plus puissant quand le soleil dort sur la mer. On reste devant les yeux grands ouverts.
la Grande Sophie, ce single qui annonce l'album à venir à la rentrée pour la Grande Sophie, avec une tournée déjà qui est annoncée, notamment le 23 septembre à Vannes. Elle passera par Montpellier, par Toulouse, par Bordeaux. Toulouse est au Bikini, qu'on salue à chaque fois parce qu'il y a le meilleur catering de France.
C'est vrai.
C'est bien connu. On salue Hervé Sansonetto. Il y a Lille le 24 novembre et il y a le Théâtre de l'Atelier à Paris 29 et 30 novembre prochain pour la Grande Sophie. On parlait de ce retour à quelque chose de simple qui s'entend aussi dans la musique, dans les harmonies et puis dans ce gimmick finalement qui va taper dans des souvenirs certainement un peu collectifs de ces chansons easy listening, c'était un peu la volonté aussi certainement musicalement d'avoir quelque chose de très sobre.
Déjà je souhaitais faire tous les arrangements et cet album en fait il a été co-réalisé j'ai eu un équipier qui s'appelle Yann Gazi et j'en parle parce que chaque détail est important quand on fait un album. Yann m'a appelé un soir, j'avais pas commencé à réécrire de chansons et il m'a dit, oh voilà, j'ai une idée, écoute, moi j'ai envie de travailler avec toi, je te vois tout faire. Et en fait, un simple appel comme ça vous donne une énergie incroyable pour vous y mettre dès les secondes qui suivent après un appel téléphonique. Donc tout de suite j'ai pris ma guitare. Qu'est-ce que j'avais besoin à cette époque-là, après tout ce qu'on avait traversé, c'était d'espace, d'horizon. Et j'ai fait avec ce que je savais faire, c'est-à-dire que j'ai enregistré mes parties guitare sans vouloir être une guitare héros, aussi simple soit-elle.
Ouais.
Et puis j'ai composé, j'ai mis la basse. Alors Yann m'avait dit, tu vas jouer la batterie, tu vas jouer la basse. J'ai fait tout ça sur mes maquettes.
D'accord.
Sauf que je lui ai dit, quand on est rentré en studio, j'ai dit, ah non, mais attends. Là, c'est pas possible, je suis une super mauvaise bassiste, donc on va prendre un bassiste qui va refaire ma partie et un batteur, mais sinon j'ai fait mes guitares. Et c'était super agréable parce que cet album, il s'est fait de façon très intime avec Yann.
Ouais.
On n'a pas vu beaucoup de monde, on a invité très peu de musiciens, et parfois on a gardé aussi mes maquettes.
Ouais. On te connaît pour explorer plein de choses, t'aimes bien vivre des expériences différentes, en musique en tout cas. Tu es venu d'ailleurs avec Delphine Levigan. De Vigan, pardon, il n'y a pas tellement longtemps dans le Loft Music. Ça veut dire que régulièrement, il y a cette phase presque obligée de retourner, de faire un peu le point. Est-ce que ça a été récurrent dans ta carrière, ça, Sophie, à un moment donné, voilà, dire bon, là, ok, je fais un petit bilan. Et ça se concrétise par un nouvel album ou une façon très simple d'aborder les choses avant de repartir sur autre chose ?
Ben déjà, moi, quand je fais de la musique, avant tout, je cherche à m'amuser.
Oui.
Donc, je me suis dit, qu'est-ce qui va m'amuser là sur cet album ? Alors, je m'achète toujours de nouveaux instruments que je ne maîtrise pas forcément, d'ailleurs.
Par exemple, c'est quoi le dernier que tu as acheté ?
Là, par exemple, je me suis acheté un enregistreur sans pile. Sans câble. J'en ai marre de brancher toujours les trucs, et puis ton idée, elle s'en va. Donc là, j'avais acheté quelque chose de simple où tu le mets sur la table, c'est un micro, et puis tu as des effets. J'ai pris ma guitare, je mettais des effets, pour moi j'étais à Bercy, tu sais, c'est génial, j'enregistrais comme ça, et ça m'amusait tout simplement.
Ouais.
Donc ça, je faisais ça au lieu de faire une autre activité, le soir, je me mettais chez moi, j'aime bien me mettre dans ma cuisine, ce truc au milieu sur la table, et puis je cherchais des idées. Il y a pas mal de chansons qui peuvent naître comme ça, et puis d'autres c'est une mélodie qui me traverse la tête avec un bout de texte.
Ouais.
Mais voilà, tout s'est fait de façon très spontanée, ludique, et surtout dans la bonne humeur avec mon équipier aussi.
Ouais. La Grande Sophie, c'est marrant que tu parles de la cuisine, parce que ça aussi c'est récurrent. Il y a eu cette fameuse kitchen music dans les années 90, où tu avais espèce de mouvement comme ça qui rejoint cette idée d'être dans son contexte naturel pour écrire. C'était quoi la kitchen music en 1990?
C'était qu'avec les éléments qui m'entourent, j'arrive à faire une chanson. J'avais fait une définition proche du dictionnaire que j'ai oublié depuis, parce que ça date maintenant. mais ce que je veux dire par là, c'est que le fait de se dire, bon, je vais écrire une chanson, je vais me mettre dans le lieu consacré à l'écriture avec l'ordinateur, moi, ça peut me paralyser.
Voilà, c'est ça.
Donc, il me faut des lieux où je vis, quoi.
Oui.
Après le repas, je peux rester dans ma cuisine et prendre ma guitare, tout simplement. Ça peut être à d'autres endroits de la maison aussi. La salle de bain résonne bien, donc on peut se servir d'une réverbe.
Mais, la bathroom music.
J'utilise les réverbes naturelles qui donnent envie de chanter aussi. Et je me pose moins de questions que de me dire, bon là, tu es devant ton ordi, tu dois créer. Non, pas, je ne fonctionne pas du tout comme ça.
Ouais. Charles Aznavour, Éric Berchaud, il avait comme ça des endroits, tu lui consacres un ouvrage au Cherche Midi, tu l'as accompagné pendant de longues années au piano. Il avait un endroit comme ça de référence où il aimait écrire, tu penses?
C'est-à-dire qu'à Mauriès, dans sa maison en Provence, dans les Alpes, il écrivait tous les matins, il commençait ses journées par écrire. Ouais. Quoi qu'il arrive, c'était vraiment un cérémonial. Tous les jours, oui, il écrivait. Il se mettait à la table, il écrivait des textes, des idées. D'ailleurs, il les prenait beaucoup par les médias.
Ouais.
Et d'ailleurs, même avant ses concerts, il était sur le journal de 20h. Et d'ailleurs, il n'y avait aucun concert qui commençait avant 20h30. Parce que fallait...
Il était très attentif à ça. Tu le dis dans le livre. Qu'un jour, il t'appelle de Mauriès. Il dit tel journal cite les artistes français connus à l'étranger. Et moi, j'y suis pas.
Oui, d'ailleurs, il y avait une chanson qu'il avait écrite déjà il y a quelques années qui était La Critique.
Ouais.
Et dans les tout derniers concerts, systématiquement, cette chanson était revenue parce qu'il aimait beaucoup de temps en temps parler au public entre les chansons. Et il y avait une chose qu'il tenait vraiment à dire, c'est que les critiques qu'il avait, comme il disait, assommées, ils étaient tous morts, tandis que lui, il était toujours là.
Oui, c'est ça.
C'est vrai que... Il attachait beaucoup d'importance aux médias, mais surtout pour l'actualité aussi, et puis pour prendre des idées. Il a toujours été sensible aux faits de société.
Ouais.
Et d'ailleurs, il avait écrit il y a très très longtemps une chanson sur les malentendants. Et dans ses derniers tours de chant, il avait fait pour les non-voyants aussi une chanson. Oui.
Parmi les titres que tu as choisis du grand Charles Aznavour, mon cher Éric Berchaud, il y a ceci.
Sa jeunesse, car tous les instants de nos 20 ans nous sont comptés, et jamais plus le temps perdu ne nous fait face. Il passe.
Quelle mélodie extraordinaire que celle-là de jeunesse. Alors ça fait partie des chansons que tu jouais en duo piano-voix avec lui.
Bien sûr.
Dans un rapport très fragile et très intime.
Tout à fait. C'est surtout par cette chanson que tout a démarré dans, je dirais, ma collaboration avec Charles, parce que justement, dans ce grand échiquier où il m'avait invité, il y avait sa jeunesse, qui à l'époque était dans une forme piano, orchestre, et pour l'accompagner. D'ailleurs, l'orchestration avait été faite par Jean-Claude Ric.
Ouais.
Et il m'avait écrit une telle belle partie de piano que Charles a dit, finalement, on n'a plus besoin d'orchestre, on la fera que tous les deux. Et donc, c'est comme ça qu'il m'emmenait pendant des années dans les émissions de télévision où il a chanté systématiquement, car c'était sa chanson préférée.
Ah, c'était sa chanson préférée,
oui,
ça j'ignorais.
Tout à fait.
Et ça nous donne le titre, ce lien que tu as eu avec lui, à ses côtés et sur scène, le titre de ton livre, Vu de dos, c'est-à-dire que tu le regrettes, tu le dis dans le livre, c'est que le fait d'avoir joué aussi longtemps avec lui m'a empêché de le voir de face. Je l'ai vu de dos en étant sur scène et je perdais toutes ses mimiques et tout son travail d'interprète extrêmement précis.
Mais je vais te dire, il avait une telle présence que même de dos, on le sentait.
Ouais, c'est ça. Le livre Charles Aznavour au Cherche Midi. Un autre titre, tiens, que tu as choisi, ça date de 1971, c'est celui-là, Éric Berchaud.
Non, je n'ai rien oublié, rien oublié. Marié, moi, allons donc. Je n'en ai nulle envie.
Non, je n'ai rien oublié, 1971. Chanson, fresque de chanson, totalement, tellement bien écrite, qui révèle comme ça un secret à la fin. C'est ça, c'est une des chansons vraiment d'école, j'allais dire, de n'importe quel auteur ou interprète.
Et c'est vrai que cette chanson m'a énormément marqué parce que un soir, mon père décide de m'emmener dans les studios Hoche, dans les studios Barclay. Et Charles enregistrait tout cet album de 71 avec Mourir d'aimer, dont j'ai un oublié, entre autres.
Ouais.
Et Christian Gobert, ce merveilleux arrangeur qui a fait tellement de chansons à la suite de Paul Mauriat pour Charles, avait fait, donc c'était l'époque où il y avait des orchestres avec 50 ou 60 musiciens. Et le soir, Charles avait posé les voix, l'orchestre était parti, on voyait dans la pénombre les pupitres qui restaient de la journée, de tous ces musiciens. Et Christian Gobert lui propose d'entendre le playback une fois pour ça, pour qu'il s'y habitue. Il dit non, c'est pas la peine, il va directement en cabine et cette chanson et cette version qui est incroyable sur une chanson de 7 minutes, il l'a fait en une prise.
Ouais, c'est une prise,
et il a peut-être fait un mot, mais la chanson était dans la boîte. Comme très souvent avec lui, hein, c'était incroyable.
Ouais. Et tu le dis aussi dans le bouquin, il était assez. Il n'avait pas peur, il y allait, quoi. Il était incroyable dans le et inattendu, imprévisible même. C'est-à-dire qu'il pouvait, dans des grandes salles, tout d'un coup décider de faire une chanson différemment.
Il détestait l'habitude. Il détestait l'habitude. Alors, des fois, c'était assez comique parce qu'il détestait l'habitude, mais il détestait aussi répéter. Alors, des fois, il faut être très réactif en très peu de temps pour le satisfaire. Et on partait un peu dans l'inconnu. Mais enfin, l'inconnu, il savait quand même où il allait.
Mais c'est étonnant parce que quand tu dis ça et qu'il était, il n'aimait pas l'habitude, pourtant, il y avait quand même des rituels. Son spectacle, il était très, très réglé. Et moi, chaque fois que je l'ai vu plusieurs fois, le coup de la bohème avec le mouchoir qu'il jette au public, il l'a toujours fait, quoi. C'était une habitude.
Il y avait des incontournables dans le tour de chant, mais au milieu de ces incontournables, il y avait plein de choses qui pouvaient changer, même dans l'interprétation, dans la façon d'interpréter. Ouais. Mais c'est vrai qu'il ne pouvait pas envisager de faire la bohème sans l'histoire du mouchoir.
Comme
il ne pouvait pas envisager non plus de faire comme ils disent sans cette position qu'il avait.
Avec la lumière serrée sur le visage.
Ouais. Je dirais que c'était des obligés. Ouais. Et puis au milieu des obligés, il y avait tout ce qui faisait de la magie, qui faisait qu'on allait le voir et on n'avait qu'une envie, c'est d'aller le revoir. Ouais. Voilà.
C'est vrai qu'il y avait ce rituel du. Je ne sais pas si tu as vu la grande Sophie Aznavour sur scène déjà.
Non, je n'ai pas eu cette chance.
Tu n'as pas eu cette chance.
Je me dis, quand on s'appelle Charles Aznavour pour faire une setlist, ça doit être l'enfer, le nombre de chansons.
Alors c'est bien que tu soulèves ça parce que justement, c'est dit aussi dans le bouquin, jusqu'au dernier moment, il allait concevoir la setlist.
Tout à fait. Il y avait celle de 16h quand il arrivait pour la balance. Il y avait celle après la balance. Il y avait celle de 20h, une demi-heure avant.
Mais ça veut dire quand même une chose, Sophie. Ça veut dire que tous ces textes, il les connaissait encore par cœur. Ça, c'est une prouesse aussi de tout se souvenir.
Elle a raison.
À moins qu'il ait un prompteur.
Alors, dans les derniers temps, il s'en amusait. Comme il disait tout à son public, il disait qu'il avait un prompteur. Mais le prompteur, on l'a connu les toutes dernières années. Mais ce qui peut un peu se comprendre, parce qu'à 94 ans, chanter parfois dans 5 langues différentes, dans le même tour de chant.
En plus, 5 langues différentes, t'imagines
Par exemple, à Amsterdam, il chantait en français, en anglais, un peu d'italien, un peu d'espagnol, pour faire plaisir à tout le monde.
C'est hallucinant.
Donc c'est vrai qu'il avait le prompteur, mais pour parler d'Amsterdam, il est arrivé sur scène, le prompteur est tombé en panne. Alors on s'est dit, qu'est-ce qui va se passer? Surtout que les nouvelles chansons étaient quand même avec de nombreux couplets, et il ne savait pas forcément ces nouvelles chansons par cœur. Il en a changé 2-3 au dernier moment. Il est venu près du piano et près de son chef d'orchestre du moment. Et puis on s'est adapté, et puis il a chanté 28 chansons sans prompteur.
Il était bluffant.
Parce qu'il en a écrit un nombre tellement...
1300 chansons.
1300 chansons. Il connaissait toutes par cœur.
Peut-être pas. Mais c'est vrai que... nous, on en a connu sur scène avec lui pas loin de 170 différentes.
J'ai vu que tu as dit ça aussi sur le bouquin. C'est compliqué, Grande Sophie, de construire une setlist. Ça peut être vite une prise de tête, parce que c'est comme quand on écrit une chanson d'ailleurs et qu'on se dit à quel moment elle est finie, est-ce que je peux mieux faire. Setlist, c'est pareil, est-ce que je peux mieux faire.
La setlist, tu peux intervertir, ça va.
Oui, c'est vrai, c'est pas faux.
Mais disons que ça commence par beaucoup d'imagination, tu sais, tu te projettes, et puis après...
La setlist, pardon, c'est le programme des chansons.
Oui, voilà, c'est dans quel ordre on va le jouer, parce que c'est vrai que c'est super important pour un concert. Certaines chansons sont valorisées après une autre.
Oui.
Donc tout ça, il faut le construire, c'est une architecture, et puis moi j'aime le contact avec le public, donc c'est à quel moment il va pouvoir se passer des choses, tout ça tu l'imagines, et puis après tu commences à répéter avec tes musiciens, puis tu dis... Ah, je vais plutôt faire ça, et puis après, c'est la première. Et là, tu réunis tes musiciens à la fin, tu dis, bon les gars, on va changer plein de trucs, là. Et ça dure comme ça sur une dizaine de dates.
Ouais.
Et moi, j'aime pas trop non plus m'habituer à une setlist, donc après, je fais rentrer des nouveaux titres, je fais parfois une ou deux reprises qui changent, donc voilà, il y a un concert, ça vit aussi, une tournée, ça vit un an, en tout cas un an et demi,
ouais,
pour moi.
C'est ça, ouais.
Donc je change des choses.
Et puis ça dépend aussi du succès, c'est une mécanique, du succès du single ou de l'album en présence, d'actualité, qui des fois peut prendre une place très 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 importante dans la setlist, et quand il n'a pas si bien marché que ça, on le met un peu ailleurs, ça dépend aussi de tout ça.
Oui, ça, de toute façon, oui, le single, on sait que les gens, il va y avoir une réaction.
Ouais.
Mais bon, voilà, il faut lui trouver une place à chaque fois.
Ouais. Et toi, alors,
moi, j'aime bien aussi pas forcément jouer tel que le morceau tel qu'il est sur le disque.
Oui, d'accord.
Parce que pour moi, c'est la différence avec le live, c'est qu'on peut se permettre plein de liberté. Si je veux prolonger une chanson musicalement, ou eh bien, j'ai toujours cette petite liberté-là avec mes musiciens, je leur fais un signe et après, voilà.
Ouais. Nous sommes en compagnie d'Éric Berchaud ce soir, Charles Aznavour, Vue de dos, Cherche Midi, l'accompagné, redis-moi combien de temps, pardon, je sais plus ce que tu m'as répondu, Éric, tout à l'heure.
Non-stop depuis Palais des Congrès 2007, mais voilà, sinon, absolument. Dès 1980, j'étais souvent avec lui. Oui.
Au piano, Éric Berchaud et Gérard Davous, il signe à quatre mains ce Vue de dos, et nous sommes avec la grande Sophie pour son single qui annonce son nouvel album. Le single s'appelle La Mer, elle est en concert, en tournée à partir du 23 septembre prochain, notamment à Paris, au Théâtre de l'Atelier, les 29 et 30 novembre. On revient avec le quiz trompette, ne bougez pas.
Quand le soleil dort sur la mer, on reste devant les yeux grands.
Le Loft Music Sud Radio, 20h-21h, Yvan Cugius.
Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles, il me semble.
Nous recevons ce soir dans le Loft Music le pianiste concertiste Éric Berchaud, qui a accompagné de longues années Charles Aznavour et qui publie aux éditions du Cherche Midi Vue de dos, et puis également la grande Sophie pour le premier single annonçant son nouvel album à paraître à la rentrée. Le single s'appelle La Mer, elle est en tournée à partir de septembre. La grande Sophie, vous avez des dates évidemment sur son site officiel. On va sur le quiz trompette, qui est un moment attendu de la France entière. Les gens klaxonnent quand ça, je l'annonce dans la voiture, et le thème de ce soir, c'est la mer. Pourquoi ? Je te le redemande, Maxime, notre réalisateur adoré, parce que c'est, tu peux pas parler, parce que c'est le titre du single de la grande Sophie. On peut, on m'a soufflé la question, mais je l'avais imaginé, on peut appeler facilement un titre La Mer quand on connaît la chanson de Traîner, par exemple ?
Y a pas oui, il y a par exemple, L'Amour peut être un titre de chanson aussi. Il y a plein de titres qui vont s'appeler L'Amour. On peut, oui. Après, il y a des codes sur chaque chanson.
Ouais.
Mais je ne me voyais pas l'appeler autrement.
Ah oui, oui.
Et ouais. Mais il arrive, il y a beaucoup de chansons qui portent le même nom, oui.
D'accord. Après, c'est...
Après, c'est à vous qui faites la radio quand vous diffusez de bien référencer...
La mère de la grande Sophie, il faut dire, voilà. Parce que par exemple, on en parle souvent, comme ça sera mieux, pardon, je m'arrange avec mon micro, on le dit souvent, il y a des chansons où il est difficile d'appeler, par exemple chez Aznavour, Non, je n'ai rien oublié, c'est compliqué d'appeler une chanson comme ça, quoi, aujourd'hui si on la crée, parce que immédiatement c'est tellement puissant, Non, je n'ai rien oublié, que c'est tellement incarné par Aznavour que c'est pas une bonne idée.
Mais c'est incroyable, c'est que cette chanson, qui était une chanson magnifique dès le départ, ne faisait pas partie des grands classiques, et puis avec le temps, il était obligé de la chanter, avec le temps, il était obligé de la chanter dans chaque concert.
Oui, il y a des titres qui sont difficiles. Mais la mer,
mais c'est dur de s'interdire
choque,
aussi, parce que si on s'interdit,
pas,
après, c'est... oui, je pense qu'il y a, oui, il y a plein de chansons qui portent le même nom. Et...
Mais moi, ça me dérange pas sur la mer, en fait, parce qu'il y a quelque chose comme ça de plus... c'est un terme plus courant, j'allais dire, la mer. C'est pas une expression, c'est un mot, donc ça me dérange pas. Moi,
la chanson de Charles Trenet est un monument. Hein. D'ailleurs, j'aime beaucoup Charles Trenet, donc... et peut-être que même je vais m'amuser aussi à faire connaître aux gens toutes les chansons qui s'appellent La Mer en créant des playlists aussi. J'aime bien faire des collections, des séries. Moi, ouais, je suis la pro des séries.
La grande Sophie, c'était l'idée de mon quiz. C'est que des chansons avec le mot de la mer dedans.
Tu vois, ça sera ma future playlist.
Oui, c'est ça, tu vas pouvoir t'en inspirer. Ceci, tiens, ça date de 1995. Je ne sais pas si tu vas les reconnaître.
Non.
Ah. vous dit quelque chose, ça. Il est dans la même, il était dans la même maison de disques que la tienne, peut-être, à l'époque. Il est toulousain. Il y a la mer dedans. Oui. Et...
Nougaro.
Il y a... Non, c'est pas Nougaro. On salue Nathalie Scholtes, ton attachée de presse, qui est très, très, très forte au quiz
alors,
trompette.
Alors voilà, je ne sais même mais pas lire sur les lèvres.
Il s'appelle Art Mengo. Art Mengo. Ah. Et le titre, la mer n'existe pas.
La mer n'existe pas.
Oui, je pense bien, oui.
Parfois nous la rêvons, mais elle n'existe pas. Ce n'est qu'une intuition.
C'était un texte de Patrice Guirao, je crois. C'est en 1995, la mer n'existe pas. Un autre titre dans lequel il y a la mer, celui-ci. Ça, c'est facile. Hein.
Face à la mer, de Calogero.
Eh oui.
J'adorais ce titre, mais qu'est-ce que j'ai aimé ce titre.
Il est superbe aussi. Avec Passy. Ça aussi, c'est chez Polydor, non ?
J'ai fait ses premières parties, il l'a chanté, j'étais aux anges.
C'est vrai, elle est terrible cette chanson. Alors la mélodiste qu'il est aussi, voilà, Calogero, quoi. Il y a un sens de la mélodie aiguë, comme chez Art Mengo d'ailleurs. Bon, alors ça est...
Ben, je suis entraîné.
Ah, oui, facile, je suis entraîné.
Voyez.
Ça, c'était en 1946. Ceci peut être un peu moins connu. Non, là, j'ai pas la bonne info. Ça, ça date au moins de 1900, je dirais 60 peut-être.
Il y a le ciel, le soleil et la mer.
De qui l'auteur, jolie Sophie?
Ah, et ça, il s'appelle c'est plus dans les années 60.
Nathalie Scholtes, en attaché de presse, s'évertue. Elle a un problème de mâchoire tellement elle essaie d'articuler.
C'est pas Sacha Distel.
Non, c'est pas Sacha Distel. Nathalie, désolée. Non, Marcel, c'est pas. Non. C'est non pas, non, non pas. C'est. Il s'appelle François. François. François de Gelt.
Ah oui, François de Gelt.
Le ciel, le soleil, la mer.
Passez aux oubliettes, François de Gelt. Il était pas chez Polydor, les. François de Gaulle, c'était en 1900. Il faut vérifier, les enfants, en
et
quelle année c'était François
quelques,
de
Gaulle.
Ouais, 60. C'est vraiment l'époque de tous les garçons et les filles. 65, c'est. Voilà, parfait, merci beaucoup. Et sur la mer, il y a aussi ça. Ça, c'est un peu. C'est...
Michel.
Ouais, c'est la mère Michel.
Il y a la mère.
Bah oui, la mère Michel. Mais c'était. Oh là là. C'était pour rire. C'était pour rire. Et en plus, je l'ai raté. Il y avait un do dièse que je suis passé à côté. Bon, je sais pas qui a gagné, mais peu importe. Hein. Peu importe.
Pas moi.
Je dirais que c'est plutôt c'est Nathalie, ton attachée de presse, Sophie, qui a gagné ce soir. On parlait tout à l'heure à propos de la mère de cette citation de Victor Hugo. Je me suis permis d'emprunter pour ouvrir l'émission. La rigueur et la liberté. Et on disait que c'est dans la musique, il y a évidemment cet espace de liberté, d'improvisation, etc. Mais c'est un espace finalement très codifié, très fermé, très réglementé. Ouais. Donc il y a la rigueur et la liberté aussi.
Bien sûr, déjà l'écriture musicale, c'est difficile d'écrire de la musique sans mesure, sans chiffrage, sans harmonie. Il y a des règles.
Ouais.
Donc, et dans ces règles, chacun écrit différemment. Et donc chacun est libre. Il y a une part de liberté gigantesque. Sinon... Ouais, je trouve que ça s'appellerait vite du bordel. On est obligé. Et dans les interprétations, c'est la même chose. Que vous soyez, je pense, chanteur ou dans les interprètes classiques, vous avez une forme, vous avez un style, et il n'y a pas deux pianistes qui jouent de la même façon, et pourtant les œuvres, elles sont codifiées. Donc il y a une part de liberté, oui, due à la personnalité de chacun, mais il y a des règles. Et c'est ce qui est magnifique, je trouve, dans la musique, c'est cette relation des deux.
La grande Sophie, on passe sa vie peut-être aussi à se libérer comme ça de contraintes, de repères, d'aller vers de la sobriété certainement, mais aussi vers une forme de liberté que l'on cherche forcément, non, quand on avance dans son parcours, d'autonomie, de pas dépendre ni de directeur artistique, ni de machin,
oui,
de
oui,
formatage,
c'est hyper important dans la musique. Moi, je l'ai appris grâce à finalement, j'étais pas pro ordinateur, mais ça m'a permis une indépendance parce que j'avais pas le vocabulaire de ceux qui avaient appris la musique. Je suis autodidacte.
Oui.
Et c'était très difficile pour moi de m'adresser à eux. Donc en faisant mes maquettes grâce à un ordinateur, je donnais des directions et après on poursuivait ces directions. Mais ça m'a permis un dialogue beaucoup plus facile avec des musiciens. Oui.
Oui. Ce dialogue, pardon, je t'en prie,
je voulais
Sophie.
Revenir sur la rigueur. Vous en avez parlé tout à l'heure sur le fait que Charles Aznavour, tous les matins, écrivait de telle heure à telle heure. Je crois beaucoup au travail justement dans l'écriture. d'avoir des plages horaires comme ça. C'est vrai que...
C'est ton cas aussi?
Moi, je suis du matin plus que du soir, ouais. Mais c'est, je crois que rien n'arrive comme ça quand même, ou c'est assez rare. Il y a quelques génies, hein, oui, ça existe, mais il faut quand même du travail, s'y coller. Et c'est un peu comme un entraînement sportif aussi. Quand on arrive à un résultat, pas pour écrire, je pense pas. Mais enfin, en tout cas, faut de l'énergie, se dire de la volonté, voilà.
Oui, oui, absolument. Brel disait, hein, une chanson, c'est 1% d'inspiration et 99% de boulot, quoi.
Oui, tout à fait. Mais Charles, d'ailleurs, se considérait d'abord comme auteur. Ce qui est incroyable, parce qu'il a fait quand même des mélodies en grand nombre et extraordinaires qui ont touché les gens. Mais d'abord, pour lui, il voulait être reconnu comme un auteur. D'ailleurs, dans ses compositions, il commençait toujours par le texte. Il était incapable d'écrire un texte sur une musique faite avant. C'était pas possible chez lui. Donc, vraiment, ce côté de l'écriture était essentiel pour lui.
C'est marrant parce que quand on lit le bouquin, on se dit qu'il était d'une accessibilité. Alors, ça n'a pas toujours été le cas. D'ailleurs, tu le racontes dans le livre, c'est qu'avec tes parents, il y avait des habitudes qui étaient prises au départ, où il y avait une proximité évidente avec Aznavour. Et puis, il y a eu un moment où vous avez découvert qu'il y avait plus de distance et que c'était compliqué, qu'il était devenu star. Et que donc, vous ne pouviez plus aller lui dire « Allô, Charles, mets-moi de place à Bercy devant ». Non, c'était genre, il fallait passer par toute la cour qu'il y avait autour, en fait.
Oui, tout à fait. Mais je dois dire que dans les dernières années, alors après, ça dépend peut-être des productions, et c'est vrai qu'on a eu une façon d'accéder à lui d'une façon plus directe. Et je sais que ses producteurs, Patrick Chart et Alain Boyassi, aimaient beaucoup aussi que l'artiste soit accessible. Et puis Charles signait jusqu'au dernier autographe. Hein, c'était très important pour lui. Aussi bien jeune, j'ai connu ça. Et puis je vais vous raconter une anecdote qui n'est pas dans le livre.
Ah, très bien.
On était dans un avion genre EasyJet, si je puis dire.
Non, tu peux pas le dire.
Alors je ne le dis pas, mais en plein milieu du Brésil, et donc il y avait une classe unique, et souvent, les stars, les artistes sont souvent au premier rang dans une classe à part, ils se retrouvent au siège 27B, au milieu de cet avion, et puis des passagers rentrent dans l'avion après lui, et puis voient, il avait un chapeau, tout ça. Il se posait quand même des questions, mais enfin bon. Et puis là, il y a un des musiciens qui a vendu la mèche, il a dit, mais ce ne serait pas Charles Aznavour? Alors, un musicien tout content de dire, mais oui, c'est lui. Il a signé pour tout l'avion des autographes, mais avec le sourire et d'une façon très, 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 très accessible. Oui. Il était au 27B, au milieu. Bon, on parle d'Aznavour, certains disent, mais il n'était pas accessible. Non, ce n'est pas vrai. Alors après, il pouvait avoir des jours où il était plus angoissé que d'autres, ou moins disponible, plus fatigué aussi, parce qu'un artiste à 94 ans, il n'a peut-être pas
la même
facilité, après un concert de 2 heures, quand même, à aller... être disponible toujours immédiatement, mais en tout cas, voilà, il était comme ça. Et il savait qu'il devait tout à son public, tout.
La grande Sophie est avec nous également. Tu as ce moment de rencontre avec ton public, toi, les gens qui viennent te voir au concert, tu attaches de l'importance à cette rencontre, la dédicace et les autographes, ou les selfies?
Oui, sur les quand je pars en concert dans des théâtres, il y a toujours ce moment-là, en tout cas si la salle le prévoit et a l'habitude de le faire, bien sûr, je vais remercier.
Tu aimes bien aller voir les gens?
Oui, j'aime bien parce que les gens vous donnent une autre interprétation, une autre version de vos chansons.
Ouais.
Se reconnaissent, ils vont prendre une phrase, ils vous racontent une autre histoire. Et puis, j'aime bien ce moment-là parce que vous écrivez vos chansons par rapport à votre histoire, mais eux vous racontent leur histoire et c'est très différent. Donc, j'aime bien les rencontrer, oui, mais en festival, c'est pas trop possible parce que c'est plus compliqué.
Oui, c'est sûr.
Et il y a toujours, mais c'est les moments les plus fatigants, c'est plus fatigant qu'un concert parce que tout le monde vous parle de tous les côtés et ce sont des moments plus fatigants. Ouais.
La grande Sophie est avec nous, avec Éric Berchaud, qui a accompagné de longues années Charles Aznavour et qui publie au Cherche Midi Vue de dos, préfacé par Michel Drucker, post-facé par Linda Lemay, avec plein d'anecdotes, dont celle de ce concert, je crois que c'est en République Dominicaine, par 40 degrés. Ça, j'ai adoré ce passage. Et en fait, Aznavour, donc, il joue, enfin, tu vas nous raconter ça, Éric, mieux que moi.
Charles, si vous regardez les très anciennes vidéos de ses concerts, en général, au bout d'une demi-heure, il était trempé, la chemise était trempée et tout. Et un jour, Il s'est dit, je ne peux pas proposer au public qui paye sa place de voir
un mec qui dégouline,
de sueur. Ça, et du jour au lendemain, il a décidé de plus transpirer.
De plus suer.
Et c'est incroyable. Il a contrôlé cela de façon incroyable. Et
c'est pas possible, ça, physiologiquement.
Alors il trouvait peut-être des solutions. Il buvait peut-être moins avant. Je peux pas vous dire son secret. En tout cas, il ne transpirait plus. Et il y a des concerts qu'on a fait en extérieur, justement. Je crois que c'était près de Haïti, où il faisait une chaleur mais terrible, et c'était une fournaise, le seul qui transpirait pas, qui était pourtant sous les projecteurs, c'était Charles Aznavour pendant deux heures. Truc. Par contre, quand il est sorti de scène, d'un coup, c'était...
Ah ouais.
Ça dégoulinait partout. Mais pendant deux heures, rien.
Faudrait interroger un médecin ou je ne sais qui pour savoir la clé de ce truc. Tu peux refaire un bouquin, disait comment ne pas transpirer. C'est Éric Berchaud, voilà, par Charles Aznavour.
C'est incroyable ce truc. Vrai. D'ailleurs, vous pouvez voir tous les spectacles depuis. Vous verrez qu'au bout de deux heures, il n'y a pas une goutte de sueur sur son visage.
Ah, c'est fou ça. Après, j'aime bien le symbole de la maîtrise et je comprends ça, ce lien au fait de vouloir tout contrôler. Et peut-être qu'effectivement, l'esprit ou le cerveau est à ce point fort qu'il peut contrôler cette fonction aussi physiologique. Mais il était dans le contrôle, donc Aznavour, en permanence. Quoi.
Il était, oui. Mais oui, il était dans le contrôle, même avec des fois des photographes qui utilisaient le flash.
Ça, écoute bien ça, Grande Sophie. Parce que là, moi, j'ai assisté aussi à un concert où il a arrêté la chanson. Et moi, ça m'avait mis mal à l'aise, d'ailleurs. Parce qu'il y a un pauvre diable au milieu du zénith qui fait une photo avec un flash en pleine chanson d'Aznavour. Et là, il arrête. Il dit stop. Il arrête la chanson. Moi, j'avais vu ça.
Non, mais il précisait une chose. C'est pas la photo qui le dérangeait. C'était le flash.
Oui, mais d'ailleurs, d'arrêter la chanson, c'était quand même surprenant quand on était dans le public.
Oui, mais pour
Le mec qui l'avait pris, il n'était pas bien.
Oui, mais pour un artiste qui part dans son monde et qui raconte une histoire, le flash vous ramène, que vous soyez pianiste, un acteur, un comédien, le flash immédiatement vous fait prendre conscience que vous êtes en train d'être vu et ça vous évade complètement de votre... Oui. Ça peut se comprendre.
Mais tu ferais ça, toi, la Grande Sophie, si quelque chose te gêne dans la salle pendant que tu chantes.
Ouais,
t'as
plus de flash, c'est vrai. Il n'y a plus de flash.
Mais t'irais jusqu'à arrêter la chanson s'il y avait un truc qui t'avait déstabilisé ou tu fais avec.
Ce qui peut être déstabilisant quand on est en live et que beaucoup de gens sortent leur portable et filment, c'est qu'on a l'impression qu'ils ne sont pas dans l'instant présent, ils sont derrière leur écran alors qu'ils y sont toute la journée. Et là, c'est un moment de rencontre.
Ouais, mais ils ont le droit aussi de faire ça et de ne pas être présent.
Je comprends, mais il y en a, ils le gardent tout le temps. C'est non-stop, ça veut dire que quelque part, ils n'ont pas eu cette présence.
Oui, oui, d'accord.
C'est comme si moi j'arrivais sur scène et que je mettais aussi mon portable et qu'on n'y ait que des portables entre nous. Non, moi j'aime voir le regard des gens. Ouais. C'est super important. C'est super important pour moi de voir les gens. Je ne fais pas partie des artistes qui veulent être aveuglés par une poursuite ou quoi que ce soit. Je veux avoir un regard. Et parfois, vous savez, même il y a des gens, on a l'impression qu'ils s'ennuient. Oui. Et je ne lâche rien tant que la personne ne va pas faire un sourire ou je vais m'accrocher à ce regard-là.
Ah bon ? C'est intéressant ça. Tu repères quelqu'un qui dort par exemple dans la salle.
Ah ça je peux faire des réflexions. En revanche, je peux dire le gars il peut passer. Je vais toujours m'amuser de ça ou j'ai toujours envie de prendre un petit bonbon d'aller lui mettre dans la bouche.
J'adore. Ah ouais.
Il y a plein de choses qui.
J'avais jamais entendu ça.
Parce qu'en fait ce qui se passe souvent, je vais vous avouer quelque chose, c'est que souvent les dormeurs se mettent au premier rang. Et je ne comprends pas pourquoi. Alors je dis, avis à tous les dormeurs, mettez-vous au dernier rang.
T'as jamais eu un mec qui dort, en vrai ?
C'est arrivé, oui.
Un mec qui dormait ?
Parce que souvent, il y a des salles où c'est des abonnements. Donc les gens viennent, ils prennent leur place, ils se mettent toujours à la même place, ils viennent découvrir, et puis ils passent tout le concert à dormir. Mais ils sont toujours devant, ces gens-là. Ça me fait rire.
Non, mais là, ça peut être obsessionnel pendant le concert. Tu vois, le mec qui dort, surtout s'il se réveille pas.
Mais des fois, je joue très fort, je me mets devant, ou alors je vais m'asseoir sur les genoux des gens aussi quand je chante. Comme ça, ils se réveillent.
Mais en vrai, c'est un repère que tu t'es fixé. Quand tu vois quelqu'un qui est pas bien, tu sens qu'il n'est pas convaincu. Tu te dis, je gagne le concert au moment où le mec il sourit.
C'est vrai, ça m'est arrivé.
Pas à chaque fois, mais ça m'est arrivé. Ah ouais. Incroyable.
Parce que si l'imagination prend parfois le dessus, et parfois je me fais des mauvaises interprétations, mais je me donne des petits challenges comme ça. Ben lui, je sais pas, peut-être il est arrivé, ça a pas trop l'air de lui plaire, mais il va ressortir et ça va lui plaire.
Il sera heureux. Voilà. Pareil pour Charles Aznavour, il pouvait être d'ailleurs vers la fin de sa carrière. Tu décris Éric Berchaud qu'il était déçu par un concert à un point assez incroyable. C'est une des dernières fois où tu l'as au téléphone et il parle de cette impression de concert raté. Il est très négatif et on voit à quel point ça pouvait le ronger et le faire souffrir, un concert qu'il estimait raté.
Oui, c'était une des premières fois, mais par contre, c'était pas raté pour le public parce que en l'occurrence, on était au Japon et là aussi, même un Japonais qui est peut-être moins expressif que le public italien.
T'as joué au Japon, Sophie ? Parce que là, t'as que
non,
des mecs qui dorment.
Non, je n'ai pas joué au Japon, j'ai joué en Asie, mais pas au Japon.
D'ailleurs, Charles disait en plaisantant, souvent, il dit « C'est incroyable, ce public, ils m'adorent, ils ne comprennent pas un mot de ce que je chante. »
mais c'est ça qui est magique dans la musique, c'est que ça crée des liens. Quoi qu'il arrive, ça crée des liens.
Donc le public était ravi, ils étaient debout pour des Japonais et tout. Ça a eu un succès fou, mais lui, il ne se sentait pas en harmonie avec nous. Avec l'orchestration, enfin bon, bref.
Ça arrive, ouais.
Et ça arrive, et puis bon, bah, après c'est oublié, et puis il pensait toujours à la suite.
Ouais.
Toujours au prochain concert, à la prochaine date.
La grande Sophie est avec nous également ce soir. Le single s'appelle La Mer, il annonce ce nouvel album que tu nous réserves pour la rentrée, La Grande Sophie, puis tu pars en tournée le 23 septembre, Vannes dans le 56, qui doit être au moins le Morbihan, je crois, je sais pas en fait.
Très belle salle ce théâtre.
Oui, à Vannes, et qui passe par Paris, le Théâtre de l'Atelier, 29 et 30 novembre. On a fait, notre Nicolas nous a préparé une petite rétrospective des grands moments de La Grande Sophie. Il y avait par exemple en 2001, ceci.
T'es comment quand tu bailles? T'es comment coiffé autrement? T'es comment avec la barbe? T'es comment avec tes parents? T'es comment quand t'en as marre? T'es sûrement différent, sincèrement.
Et puis en 2003, c'était le troisième album, Et si c'était moi? Et il y avait le fameux Du Courage.
C'est beaucoup transformé sur scène.
C'est vrai ?
Oui,
moins
parce que je trouve que cette version a vachement vieilli.
Ouais.
Voilà, je suis honnête avec ce que j'ai pu faire aussi et je lui fais vivre plein de... Chaque tournée, les arrangements changent. Donc pour moi, c'est plus difficile de réécouter cette version parce qu'elle est ancrée dans une époque, je trouve.
Oui, oui, certainement, bien sûr. Ça t'a valu une victoire de la musique ? C'est sur cet album
Non, c'était sur la place du fantôme. J'ai eu une victoire de la musique pour la scène et ensuite, c'était sur la place du fantôme.
Voilà. Et dans la setlist, on en parlait tout à l'heure, Du Courage, il est toujours à la même place à peu près ou vers la fin, j'imagine ?
Non, la place... Non, ça change, oui. Non, il n'y a pas des numéros. Tout change. Moi, chaque fois que je pars en tournée, tout change, les arrangements changent.
D'accord.
Voilà.
Parce qu'après, il y a la puissance des titres quand même sur scène. On sait à un moment donné quel titre va déclencher quelque chose chez les gens à coup sûr. Et Du Courage, j'imagine que quand tu le joues, Sophie, il se passe tout le temps quelque chose de très puissant. Donc tu sais que c'est une petite cartouche, si je puis dire, dans l'image, pardon, triviale, mais pour être sûr de faire basculer la salle, en fait.
Déjà, je teste si les gens s'en souviennent. Et puis s'ils s'en souviennent, eh bien, ils m'aident à la chanter aussi. Je leur laisse de la place aussi.
Ouais, ouais. Oh, bah, s'en souvenir, je pense qu'ils s'en souviennent. Il y avait également en 2005, quatrième album, ceci.
On m'a dit, Sophie, chante-moi des airs. Je les désire, ces épopées. Moi j'aime le rock'n'roll
qui te définit avec cette en même temps cet amour pour le texte, pour la tradition de la chanson française et puis toute cette culture anglo-saxonne de
l'énergie,
son writer que tu es aussi toi.
Je slamais sur cette chanson.
Mais oui,
me lançais dans le public et comme j'étais trouillarde, parce que normalement on slame de dos.
Slamer c'est se jeter dans le public. Mais ça Aznavour l'a jamais fait.
Les slameurs le font de dos, on se jette comme ça et moi je me jetais à plat ventre parce que je voulais voir où j'allais.
Courageuse mais pas téméraire Sophie. Il s'est jeté dans le public.
Non mais il a fait du slam d'une façon indirecte.
Ah bon ?
Parce qu'on était lors d'un concert à Moscou, il chantait « L'amour c'est comme un jour
».
Et puis ce jour-là, on ne sait pas pourquoi, il a repris le texte de la version ancienne, parce qu'il changeait souvent les orchestrations. Depuis quelques temps, il chantait que les refrains. Et puis là, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il a commencé la chanson par le couplet, comme il y a 35 ans. Mais nous, on avait la musique de la dernière version. Et il s'est vite rendu compte du problème. Et là, au lieu de chanter la chanson, il a fait Grand Corps Malade.
Ah
il a
eu un succès fou. Il parle dans notre slam.
Il y a deux sortes de slam. Ouais. Il y a le slam verbal et le slam avec son corps où on se jette
dans la ça, il l'a jamais fait.
Il l'a fait verbal.
Ça, ce serait une révélation. Il y avait également 2009 pour La Grande Sophie, ceci.
C'est tout texte.
explose. On voudrait tous être quelqu'un d'autre, juste une fois dans sa vie, que tout soit si différent.
Moins j'ai beaucoup, j'ai beaucoup d'affection pour cette chanson, parce ouais. que c'est cette chanson qui m'a permis de rencontrer Françoise Hardy. C'est Les Échos, tout le monde me disait Françoise Hardy adore cette chanson, et ça nous a fait nous rencontrer.
Ah, c'est beau. Et là, du coup, avec beaucoup moins de guitare, une ambiance, une texture plus douce.
Il y
plus,
avait des cordes.
Des cordes, oui. Absolument. C'est en ça qu'on disait tout à l'heure que tu te réinventais. En tout cas, tu n'étais pas là où on t'attendait souvent. Et c'est bien pour une artiste. Il y a Maria Iudina aussi.
Non, je ne suis pas, non, je ne suis pas Maria Iudina.
Hommage à une pianiste.
Oui, peut-être Eric la connaît, Maria Iudina, qui était une pianiste virtuose sous Staline et qui s'est battue avec son piano contre les idées de Staline. C'est incroyable, une résistante.
Oui, oui, absolument. Et il y avait en 2015 sur ce même album, ceci aussi.
Autour du lac, j'entends comme des bruits qui résonnent, des vagues de motos. Quelle est cette autre personne? Cœur qui klaxonne sous ton regard accroupi. Autour du lac, il y a comme un monde qui bouille. Devant moi, un tableau. Les amoureux se questionnent et ma voix chante. Je te reverrai dans la chaleur humide sur.
C'est en 2015, Hanoï. Et puis en 2019, le 8e album, Nous étions.
Nous étions destinés.
Extrait de cet
si
instant.
L'un de nous s'éloigner, nous étions inconsolables. Alors le temps ne nous a pas trahis.
Ça fait plaisir que vous ayez choisi cette chanson.
C'est vrai.
C'est une chanson d'amour qui représente le grand amour de ma vie. C'est une chanson que j'ai écrite pour cette personne. Ouais.
Ouais.
Et j'adore la chanter sur scène.
Ah, c'est chouette. C'est chouette que tu nous dises ça pour finir cette émission. Merci d'être passée, Sophie. La grande Sophie, le single La Mer est disponible depuis le 19 mai dernier. Il annonce l'album qu'on attend avec impatience. Sophie, tu reviendras nous en reparler ici même. Tu sais que tu es la bienvenue. Et tu es en tournée à partir du 23 septembre. Vannes, tu commences au théâtre Anne de Bretagne. Et puis Lyon, Sébazat, Toulouse, Bordeaux, Lille, Paris, au Théâtre de l'Atelier, les 29 et 30 novembre prochains. Merci Sophie d'être passée.
J'ai voulu amener vraiment le public ailleurs,
mais oui,
que
je vois.
Dans d'autres endroits, en tout cas sur Paris. D'habitude, je vais au Trianon, ouais, l'Olympia.
Ouais,
et là, l'Atelier, c'est un lieu qui me parle parce que j'avais fait une tournée solo dans ce lieu-là.
Oui.
Et je voulais y retourner, donc je les amène dans une autre aventure.
Bah, c'est super. Merci d'être passée nous voir dans le Loft, Sophie. Merci. Et il y avait également Eric Berchaud. Merci Eric d'être passé.
C'était un plaisir.
Et bien partagé. Charles Aznavour, Vue de dos, c'est ton ouvrage co-écrit avec Gérard Davoust, préfacé par Michel Drucker et post-facé par Linda Lemay, toi qui as accompagné le grand Charles Aznavour pendant de longues années, toi-même concertiste notamment, on n'a pas beaucoup parlé, mais prix Chopin, qui est un prix extrêmement convoité par les pianistes qui se respectent. Merci d'être passé, Eric.
Merci.
À tout bientôt. Dans quelques secondes, Jacques Pessis sur Sud Radio. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Salut.